vous êtes toujours sur le 102.2, l'émission Honneur du prolétaire, l'émission Échec et Glutamate, voilà. Ça, c'était de l'intro, l'émission Échec et Glutamate, une émission consacrée au cinéma, et aujourd'hui, attention, un cinéma, non, j'allais dire engagé, quand même pas. Alors, aujourd'hui, je suis entouré de mes fidèles larbins, de mes fidèles collaborateurs.
Attention,
Yuri La Science, qu'on entend, oula, il y a un vent de révolte? Une insurrection? Je suis au taquet aujourd'hui, moi. J'ai pas pris ma drogue.
Je cherche pas trop.
Mais alors on a off-top, on a changé de drogue.
Ouais, non, c'est, j'en ai pas pris du tout. Là. Enfin, je suis dans mon état normal.
Tu es rouge aujourd'hui. Hein.
T'es dans
le contexte. Hein. Ouh, tout en rouge, toute la panoplie en rouge.
Voilà, donc Monsieur Nagoya, Yuri La Science, et aujourd'hui un invité qui a quelque chose à nous présenter. Tu veux un pseudo ou on peut dire ton nom?
Non, on peut dire mon nom.
D'accord, Steph Giner.
Voilà. Bonjour tout le monde.
Bonjour à toi. Alors aujourd'hui, une émission consacrée à un film, comme toutes les semaines. Et alors aujourd'hui, attention mes chers auditeurs, on s'est attaqué à un gros morceau.
Putain, ouais.
Car il s'agit d'un film de Peter Watkins, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, on va vous le présenter, qui s'appelle La Commune, et qui traite de La Commune. Et quand on dit un gros morceau, c'est par le propos, par la durée aussi. On s'est quand même farci, 5h45 le film, mais bon, ça passe tout seul même. Il y aura beaucoup de choses à dire. Alors avant qu'on aborde le film, on va tout de suite en venir, comme ça on s'en débarrasse et on peut le foutre dehors. Steph Giner, alors ça va, t'as de la pêche?
Ouais, nickel.
Voilà, tu peux te présenter vite fait?
Bah voilà, donc je joue en fait dans le projet Improjection, qui est de l'improvisation en mode ciné-concert. Et voilà, je suis là pour la soirée du 25 mars à la salle Paul Garcin. Voilà, qui s'articule avec trois acteurs autour de cette soirée. Voilà, donc il y a les improjections, mais c'est surtout avec le Kinoscope et le collectif indépendant de cinéma qui s'appelle Entre les Mailles. Voilà, donc c'est une espèce de soirée fédératrice un peu de tout ce qui est indépendant sur Lyon, enfin pour l'instant avec cette collaboration là. Et ça va commencer, c'est à la salle Paul Garcin, donc ça commence à 19h30, 20h. Et donc il va y avoir tout un dispositif de petites projections dans le couloir de petits courts-métrages du coin de Lyon. Et ensuite il va y avoir une grosse soirée de projection avec au début du coup des courts-métrages de Entre les Mailles. Et voilà, donc là j'ai mangé le nom du réalisateur. Je crois que c'est
Damien Vildrag, je crois.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, voilà.
Non, là, il y aurait La Science au taquet.
Voilà.
C'est-à-dire qu'Entre les Mailles a fait une OPA sur tout Lyon depuis 2 ans. Ils sont à peu près présents sur tous les coups, sur tous les fronts, sur tous les projets.
Même moi, ils m'ont obligé à bosser pour eux.
Ouais.
Ah, ils sont très actifs. Ouais. Je crois qu'ils font 5 projets par an, minimum. C'est bien. Voilà, et puis du coup, après, en projection, on va faire...
Les mauvaises langues diront qu'ils s'éparpillent, mais...
Ouais, ils sont nombreux, je crois, aussi. Hein.
Ils sont très nombreux, ouais. Ils sont une trentaine de bénévoles actifs. Ouais, beaucoup de réals. Ils ont du monde à la prod, ils ont du monde... Voilà, ils font de l'éducation à l'image aussi, ils font plein de choses.
Ouais, carrément. Et du coup, après, on enchaîne, cette partie-là, et puis après, on enchaîne sur un long métrage, de Agnès Merlet, Le Fils du Requin, donc, qui est sorti en 1993, qui est un espèce de film sorti de faits divers réels sur deux enfants dans le nord de la France qui ont mis à sac un village sur une période assez longue, une espèce d'histoire de relation avec les services sociaux entre des enfants beaucoup trop mûrs pour leur âge et qui se posent des questions bien adultes et bien lourdes. Voilà, c'est une petite soirée de quoi se retourner bien tranquillement le crâne.
Ouais, et donc l'idée chez les improjections, c'est d'improviser sur le film.
Tout à fait.
Voilà, est-ce que le film est remonté ou montré dans sa...
Alors
son intégralité.
Il est remonté sur le son. Donc on a, il y a une BO qui est très connue d'ailleurs. Quand j'ai écouté la BO, je l'avais déjà entendue. Il y a une BO assez célèbre dessus. Mais du coup là, on fait du gros piratage. on saccage le son, bien sûr, pour garder quelques bribes de dialogue et pour pouvoir faire de la musique par-dessus. Quoi.
Vous êtes combien de musiciens, du coup ?
Donc on est quatre avec les improjections. Il y a basse, donc moi je joue basse et violon. Il y a batterie, saxophone et guitare.
Voilà, pour nos auditeurs, on avait le guitariste qui est venu assez souvent à l'émission, Fred Demour. Voilà, présenter certaines soirées des improjections. Et voilà, donc le 25 mars...
S'il n'y a pas révolution, puisque tu...
il y a cette espèce de voilà de questionnement par rapport à la situation actuelle,
l'instabilité.
S'il y a la grève dans les régisseurs de la salle, s'il n'y a pas le nombre de régisseurs qu'il faut pour ouvrir la salle, ça pourra se faire. Mais normalement.
Du coup, nous aujourd'hui, on risque de te foutre la merde, puisque c'est justement le but de retourner tout. Donc, on fera un appel, mais le 25, laissez tout en place. Ne faites rien de spécial.
Non, si, faites la révolution, mais le soir, allez boire des coups. Allez boire des coups, sale garçon.
C'est tout ça. Quelque chose à ajouter ?
Bah non, super.
Merci. Très bien. Officier Giner, vous pouvez. Bah, merci Steph d'être venu et puis à bientôt.
Merci beaucoup. Bon courage à vous, du coup, pour ce gros morceau.
Eh ben, merci.
Et bonne soirée à vous.
Merci,
à
plus. Merci citoyen. Voilà.
Alors, ce film, La Commune de Peter Watkins. Peter Watkins, je pense qu'on va laisser le soin à Yuri La Science de nous le présenter quelque peu.
Ouais, il se trouve que Peter Watkins, moi je l'ai concrètement, autant je connaissais son nom vaguement, mais je l'ai découvert en préparant cette émission. Peter Watkins, donc réalisateur anglais, qui est né dans les années 30, 40, quelque chose comme ça. Il a plus de 80 ans maintenant. Peter Watkins, donc réalisateur, qui a développé un cinéma tout à fait spécifique, un cinéma tout à fait particulier, et qui a développé tout un tas de théories sur le monoforme notamment. La monoforme audiovisuelle. C'est pas évident de vous expliquer dans le détail ce que c'est, mais en gros, il reproche aux médias traditionnels, que ce soit le cinéma et surtout la télévision, notamment à travers des formats tels que les informations télévisées, de ne fournir qu'une information toujours la même, déjà, c'est ça la monoforme, et toujours selon les mêmes schémas, avec des images très cut, avec un point de vue qui se veut toujours... une assurance dans le point de vue, dans le propos, et lui lutte contre ça, a travaillé énormément dans l'éducation à l'image, il a fait beaucoup de débats, beaucoup de rencontres dans des collèges, des lycées.
Il lutte contre ça aussi bien sur la forme que sur le fond.
C'est ça, et j'allais y venir, c'est même le propos, le cœur du propos de du film qu'on a regardé aujourd'hui, dont on vous parle, c'est sur la Commune, Paris 1871. Qui est son dernier film, qui est certainement son œuvre maîtresse à Peter Watkins,
parce qu'il a fait peut-être.
Il a fait, c'est un artiste maudit aussi, Peter Watkins. Hein. Faut voir que il a fait énormément de films tout aussi expérimentaux dans leur forme et dans le fond tout au long de sa carrière. Et la plupart de ses films ont été ont eu très peu de diffusion, c'est-à-dire que dès qu'ils étaient diffusés, il a commencé en Angleterre, il a fait plusieurs films en Angleterre, il a dû s'exiler ensuite, il est parti pendant un temps, il a vécu en France, pendant un autre temps il a vécu en Suède, il a fait des projets, à chaque fois des projets de films qui, une fois diffusés, une fois terminés, quand il réussissait à les terminer, parce que il y a plein de films qu'il a voulu faire et qu'il a pas pu faute de financement, et même ceux qu'il a réussi à terminer ont souvent été très peu diffusés. Aussi parce que c'est un habitué au format pas ordinaire. La Commune de Paris fait 5h45 dans sa première version, mais il a aussi fait un film sur le voyage qui parle aussi du nucléaire, etc., qui fait 14h30, je crois.
C'est sous forme de série, il me semble.
Oui, du coup il l'a sorti sous forme de format d'une heure et demie, mais le truc complet fait 14h30. Quand
après,
même.
Sur le côté, tu disais c'est un artiste maudit. Enfin, je dirais pas maudit dans le sens où c'est pas comme celui des Monty Python.
Terry Gilliam,
dans le sens où lui a vraiment pas eu de bol. C'est quand même quelqu'un qui cherchait à déranger, quoi, qui cherchait à mettre des coups de pied dans la fourmilière sans arrêt. Je pense qu'il quelque part il s'y attendait à être mal reçu un peu partout.
Ouais. Non, tu fais bien.
Après, c'est vrai qu'il s'est pris des bons retours de bâton, quoi. C'est clair qu'il y a eu des réponses assez fortes en face. chaque fois. Ouais, mais ouais. Il cherchait cette confrontation quand même.
Ah, c'est un fouteur de merde. Ah, oui, dans le bon sens du terme, c'est voilà, il remue la merde, on va dire. Et on en arrive à la Commune de Paris, un projet monstrueux dans ce qu'il a créé pour le faire, ce film, c'est absolument incroyable. Bon, deux ans de recherche déjà pour établir le projet à l'origine. Il y a 2 ans de travail avec des historiens pour travailler sur une base historique véridique sur les événements de la Commune. On y reviendra après. Et donc, je sais pas, 6 mois avant le tournage, il commence à chercher des gens pour participer à ce projet. Et il va notamment voilà, faire participer à peu près 200 environ 200 personnes de la société civile, entre guillemets, ont participé au projet, voilà, pour jouer les personnages, pour être présent à l'image, pour interpréter tout un tas de personnages. Il a fait appel aussi bien, bon, à des intermittents, des gens de théâtre, que à des gens qui n'avaient jamais fait ça, en fait, des gens sans emploi, des chômeurs,
c'est majoritairement des comédiens non professionnels, quoi, qui sont pas du tout issus du théâtre ou du cinéma.
Et voilà, et il est allé piocher ces gens-là, donc principalement dans le 11e arrondissement de Paris. Puisque le cœur de l'action du film se passe dans le 11e arrondissement de Paris, il a voulu trouver des gens qui y vivaient aujourd'hui, parce qu'il y a en permanence, pareil, je vais y venir, il y a des liens permanents entre la situation à Paris en 1871, en pleine Commune, et la situation actuelle au moment du tournage. Donc le film est tourné en 1999. Et régulièrement, il y a des comparaisons qui sont faites entre les deux situations. Il va faire aussi appel pour jouer le rôle des Marseillais. Il va contacter il va passer des petites annonces dans le Figaro pour trouver des gens dans le même esprit, mais qui ont eux des idées très conservatrices. Il va le présenter comme tel dans les petites annonces qu'il va passer, pour essayer d'avoir des gens qui interpréteront les Versaillais, les proches d'Adolphe Thiers. C'est Adolphe, non, c'est pas Adolphe. C'est Thiers, comment il s'appelle son prénom? Je m'en fous.
C'est peut-être Adolphe Thiers.
Si, c'est Adolphe, ouais.
C'est Adolphe, oh, ouais. Putain.
C'est vrai qu'on a un doute, ouais.
Quoi. Le prénom qu'on ne veut pas prononcer, tu sais. C'est Adolphe. Non, c'est pas Adolphe. Si, c'est Adolphe.
Ah bah si.
Ça explique.
Donc, pour jouer, voilà, l'entourage de Thiers, etc. Film, voilà, là, il est temps que je rentre dans le cœur du propos. Le film. Donc 5h45, il a construit, donc il a utilisé un ancien hangar, un grand hangar dans lequel ils ont construit des décors. Donc il y a un grand espace qui sert de place publique. Puis ensuite, il y a plein de constructions qui servent à la fois. Il y a une rue de Paris, une petite rue de Paris avec plein de bâtiments. Ils ont aménagé. Il y a un vrai beau travail de déco. Avec voilà des intérieurs populaires, une petite chambre de gens très pauvres dans lesquels ils vivent à plusieurs. Il y a l'atelier du boulanger, l'atelier de forge où ils réparent les armes. Il y a 2-3 pièces qui servent à représenter l'intérieur de l'hôtel de ville. On a voilà tout un tas d'espaces comme ça différents qui sont tous interconnectés par des portes qui donnent tous sur l'espèce de petite rue de Paris qu'ils ont mis en place. Et ils ont mis tous ces 200 personnes qu'ils avaient cassé. Enfin, qu'ils ont même pas casté, mais qu'ils ont fait venir sur ce projet. Ils les considèrent pas comme des comédiens, mais comme des participants. C'est-à-dire que toutes ces personnes, ces 200 personnes qui vont jouer les différents rôles, ont dû elles-mêmes faire des recherches, s'informer, connaître des informations sur la Commune.
Et choisir leur rôle, justement.
Choisir, voilà, exactement. Ils ont eu la possibilité de chacun choisir les rôles qu'ils voulaient jouer à travers ça. Donc, voilà, aussi bien des prolétaires, des ouvriers, que des petits bourgeois, que des politiques, les politiciens. Qui vont se faire élire à la Commune, etc. Et le film est une expérience absolument dingue. Il va tourner sur 2 semaines seulement.
Trois semaines. Ouais.
D'accord, 3 semaines. Il va tourner sur 3 semaines. La première partie, énormément de donc la première partie s'attarde à la mise en place de la Commune, comment on a basculé de comment on s'est retrouvé, comment la population de Paris s'est retrouvée,
quoi, ouais.
Voilà, dans cette situation de la Commune. Et la deuxième partie va beaucoup plus se consacrer justement à la chute et à la fin de cet épisode de l'histoire de France, qui aura duré 2 mois et demi. Toute la première partie, énormément de voilà, dans la forme, il y a tellement de choses à dire, voilà. Dans la forme,
c'est du noir et blanc, c'est un peu théâtralisé la manière de jouer. Il met en scène des deux télévisions, la télévision versaillaise, la télévision nationale.
Il y a un anachronisme tout à fait volontaire.
Quoi. Un anachronisme qui va être présent tout au long de l'histoire, c'est-à-dire qui remplace le rôle des journaux, des journalistes de l'époque qui s'exprimaient à travers des journaux, des publications écrites, imprimées. Il remplace ce rôle-là par des journalistes télévisés. Donc on a d'un côté la télévision nationale, avec les informations qui viennent du pouvoir de Versailles, du gouvernement de Thiers. Donc voilà des informations qui sont justement qui rentrent dans l'idée du monoforme dont on parlait, dont j'ai rapidement parlé précédemment. Et à l'inverse, on a deux journalistes qui eux travaillent pour la télévision communale,
qui sont sur place et qui vont
aller filmer et informer la population de ce qui se passe réellement au sein de la commune. Tout le film est construit comme ça à travers les images de ces deux télévisions. Et donc principalement c'est la télévision communale qui va se balader d'un décor à l'autre. Tous les participants sont investis. C'est complètement improvisé le film. La caméra se balade d'un lieu à l'autre dans des longs plans séquences, parfois de 10 minutes, 12 minutes, où on passe dans ce décor où tout est connecté. La caméra va basculer d'une pièce à l'autre et voir comme ça des petits bouts de débats qui vont avoir lieu. On a aussi bien les débats qui ont lieu dans le café, dans le bistrot avec des gens du coin. On bascule dans une autre pièce où on découvre les informations, où on voit à travers la télé les gens qui regardent la télévision nationale. Hop, ça bascule, on se retrouve la caméra avance comme ça, une espèce de caméra mouvante qui va d'un débat à l'autre. On se retrouve dans les bureaux de l'hôtel de ville avec les débats des élus communaux qui commencent à mettre au point les premières réformes, à mettre au point leur politique, etc. Et on évolue à travers tout ça. La deuxième partie, beaucoup plus consacrée effectivement à la défense de Paris, l'invasion de l'armée française,
les Versaillais, qu'on les appelle du coup à ce moment-là,
qui envahissent Paris, et en permanence on alterne entre des séquences de fiction dans le sens, enfin, de docu-fiction du coup, c'est-à-dire c'est extrêmement documenté, mais c'est sous la forme de fiction, c'est-à-dire qu'on a les personnages qui évoluent, qui jouent des personnages, les participants qui jouent des personnages. En même temps, c'est mélangé parce qu'à travers ça, par moment, on a des interventions de ces gens-là à qui on leur demande leur avis sur la situation actuelle. Sur la situation politique actuelle en 1999 avec, en vue, il y a les grandes manifestations de 1995, il y a tout un tas de luttes qui sont propres à la fin du 20e siècle, début 21e, qu'on retrouve, qui sont encore d'actualité aujourd'hui, sur comment se rebeller, comment une insurrection pourrait exister aujourd'hui, et alterne comme ça, les participants sont à la fois dans le personnage, à la fois sont interviewés au milieu du film en tant que participants. De temps en temps, on a des séquences d'interviews où les participants s'arrêtent vraiment sur leur expérience.
Qui sont un peu comme des réunions de travail,
des espèces de réunions de travail où ils expliquent leur relation à ce projet de Peter Watkins. Et tout se mélange dans un seul film absolument époustouflant. Le spectateur est pris à partie énormément, très souvent. Dans la forme aussi, j'ai parlé des longs plans séquences, mais ces longs plans séquences sont souvent interrompus. Le son s'arrête complètement. On a ces écrans noirs avec des citations ou des... des panneaux qui servent soit à donner des compléments. Parfois on a des compléments sur des situations politiques actuelles, mais très souvent ça nous donne des informations historiques précises sur la commune de Paris. Et en même temps, le fait que le son se coupe, que le spectateur se retrouve, ça laisse du temps aussi au spectateur de réfléchir, de penser à ses expériences personnelles au fur et à mesure du film. C'est une vraie expérience incroyable.
T'as les regards caméra aussi qui impliquent.
Oui, en permanence. Effectivement, comme les deux télévisions, la télévision communale et la télévision nationale, font partie de la diégèse du film, c'est tout à fait normal de voir, cette caméra, elle se déplace en permanence. Du coup, on a en permanence les participants qui regardent, qui n'ont pas d'instructions particulières sur le fait de ne pas regarder la caméra, donc ils regardent la caméra. Parfois ils sont interviewés, donc là ça colle avec ce qu'on connaît.
On leur a laissé faire ça très spontanément quelque part. Ouais.
C'est Ouais. Bah, c'est-à-dire voilà, un film de 5h30 aussi riche, aussi puissant. On sait que voilà, ça a été tourné sur seulement 3 semaines de voilà des longs plans séquences qui n'ont pas dû être répétés, j'imagine, ou très vaguement sur le mouvement que la caméra va suivre. Voilà, juste. On a investi tous ces participants d'une espèce de mission sacrée. Ils sont tous à 1000% de ce qu'on demande normalement à un comédien. Les scènes, enfin, on a regardé la deuxième
partie. C'est extrêmement poignant
ensemble tous les trois. Ouais,
la deuxième partie, on l'a regardée ensemble là, tous les trois. C'est vrai que là, quand ils défendent Paris,
il y a carrément des moments où il y a une émotion qui se dégage, et puis aussi on a l'impression que voilà, ils sont dedans à fond, mais c'est
ils sont prêts à mourir, ils sont vraiment prêts à mourir.
Ce que je disais hier, en rigolant, sans vraiment rigoler, mais c'est-à-dire, à mon avis, cette expérience-là, t'en sors pas tout de suite comme ça.
T'en sors pas indemne. Les mecs qui ont participé à ce truc,
ils ont presque fait une psychothérapie, presque.
Ah non.
Moi, je trouve que c'est une espèce de, effectivement, ça a pas la forme d'un tournage classique. C'est une espèce de jeu de rôle presque grandeur nature sur 3 semaines, et c'est ce qui fait qu'ils sont extrêmement investis. Les plans séquences, la longueur des plans, parce que quand on est sur un tournage, les coupes et tout, c'est extrêmement dur, surtout pour les non-pros, de rester dans le rôle. Et le fait que ça soit long en continu, je pense que ça joue vachement sur le fait qu'ils soient aussi impliqués.
Il n'y a pas des journées de travail totalement
épuisantes. Il n'y a pas de ta scène et on cut et tout. C'est voilà, vous êtes dedans et tout. Nous, on est parti là-bas filmer ça avec la caméra. On va arriver à tel moment ou pas. Mais
c'est vrai, et vous continuez. Voilà, vous savez que la caméra peut arriver n'importe quand. Il faut que quand la caméra est là, il faut que tout le monde soit à fond, soit dans son personnage, et à travers tout ça on découvre voilà des plein de profils différents, plein de personnages qu'on découvre un peu au début, et on revient régulièrement sur ces personnages, on les voit évoluer pendant ces 2 mois et demi de commune. Mais même en tant que spectateur, vous en sortez pas indemne.
C'est une expérience aussi pour le spectateur.
C'est éprouvant
pour en sortir. Ouais.
C'est 5h45 qui sont éprouvantes en tant que spectateur, qui sont éprouvantes parce que le dispositif est éprouvant, parce que
il y a
cette énergie.
Il est encore dedans.
Mais voilà, c'est vrai que c'est voilà toute l'attaque de Paris où effectivement on a réfléchi en regardant, on s'est dit voilà, il y a une espèce de fond sonore permanent, voilà des coups de canon, des coups de fusil, des cris, des chants,
etc. Extrêmement oppressant.
Donc,
ouais.
Donc y a, tout ça a dû être balancé pendant le tournage dans le hangar. Ils ont dû avoir une piste sonore comme ça extrêmement bruyante qui les oblige même quand ils s'adressent à la caméra à crier. Et du coup tu les retrouves, ils sont là à commenter, t'as le journaliste qui se balade à travers, qui leur pose des questions aussi bien sur mais comment vous voilà la barricade, vous allez la défendre, ouais, vive la commune.
Ah oui, ils sont à fond,
ils crient,
et en même temps
le journaliste leur pose mais aujourd'hui vous toi ton vrai toi tu ferais pareil, et on est toujours dans cette attaque, on est en plein dans l'attaque de Paris, il y a toujours ces sons, les mecs ils sont toujours obligés de crier, bah moi si je le faisais aujourd'hui je sais pas, peut-être que je le ferais, mais je suis pas sûr, peut-être que les luttes sont plus les mêmes maintenant, ouais, vive la commune, ouais.
C'est-à-dire qu'ils posent des questions sur leur réalité du moment, au moment où ils sont complètement à fond dans le rôle et complètement exaltés, parce que c'est le moment de la bataille, ils sont prêts, ils vont mourir. Et
ça, c'est le grand point d'orgue du film. Tout le film mène à cette
précision,
séquence de 30-40 minutes.
C'est ce journaliste, on a 2 journalistes dans le film, qui sont les 2 seuls vrais comédiens, en fait.
Peut-être pas les 2 seuls, mais ouais, parmi eux. Je pense qu'à Thiers, ça devait être un comédien aussi, celui qui fait Thiers. Il y a des chances.
Oui, il y a moyen. Ouais. Et on a donc 2 journalistes, un homme et une femme, qui sont pour TV commune. Voilà. Et comment il l'appelle, TV de la commune, TV communale, ouais. Et le journaliste là dont on parle au début du film, bon, il suit les événements. À un moment donné, il a une rupture, lui. Il a une rupture.
Complètement. Mais ça, là, on rentre dans le propos du film, qui sont les médias, justement, une critique des masses médias. C'est ce que je disais avec le monoforme, c'est que du coup. On est dans cette critique-là, c'est-à-dire qu'il met en scène le monoforme, c'est-à-dire que dans le film, justement, les TV, même la TV communale, d'une certaine manière, enfin, c'est surtout la TV nationale qui représente le monoforme, mais même à travers la TV communale, on a cette idée d'une télé qui n'est pas réellement indépendante, enfin, qui prend parti, et en même temps, voilà, ce journaliste, il clash à un moment donné, il dit, ben non, moi, je vois qu'il y a des trucs qui tournent plus rond dans la commune. J'ai envie de critiquer. En même temps, on lui laisse pas la place de donner ces critiques-là.
En fait, il y a un débat entre les 2 journalistes qui ont un rapport différent, un rapport personnel et du coup professionnel différent, et ils finissent par se poser ces questions d'éthique de journalistes, qui sont des vraies questions hein, que chaque journaliste doit se poser. Et effectivement, il y a une séparation à mesure que les événements commencent à devenir de plus en plus tendus. Prof Tom, tu voulais faire quelques rappels historiques, je crois.
Ouais, on va peut-être faire un petit break musical,
ouais,
tranquillou, qui est tout à fait en lien, et on vous retrouve tout de suite après.
Il y a 100 ans, comme un commune, comme un espoir mis en chantier, il se levait pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, comme un commune, comme une étoile au firmament, il faisait vivre la commune en écoutant chanter Clément. C'était des ferriers aux enseignes fragiles, c'était des menuisiers aux 100 coups de rabot. Pour défendre Paris, ils se firent mobiles, c'était des forgerons devenus des meublots. Il y a 100 ans, comme un commune, comme artisan et ouvrier, ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, comme un commune, comme ouvrier et artisan, ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Clément. Devenus des soldats aux consciences civiles, c'était des fédérés qui plantaient un drapeau, disputant l'avenir au pavé de la ville, c'était des forgerons devenus des héros. Il y a 100 ans, comme un commune, comme l'espoir mis au charnier, ils voyaient mourir la commune. Ah, laissez-moi chanter Potier. Il y a 100 ans, comme un commune, comme une étoile au firmament, il s'éteignait pour la commune. Écoute bien chanter Clément.
Voilà, un petit break musical tout à fait dans le thème, hein, la commune.
Donc, nous revoilà au nord du prolétariat.
De notre ami Jean Ferrat. Voilà. D'ailleurs, au nord du prolétariat, c'est Jean aussi. Hein.
C'est au nord du glutamate, du coup.
Alors, la commune, pour ce que je me suis rendu compte en préparant l'émission, en discutant avec des personnes, et on fait tel film, la commune et tout, je me suis retrouvé avec plein de personnes, des jeunes aussi, qui font, bon, la commune, qu'est-ce qui s'est passé pendant la commune? Et il y a beaucoup de gens qui, je pense que les auditeurs de Radio Canut savent quand même ce qui s'est passé pendant la commune. Mais, il y a beaucoup de gens juste pour resituer succinctement, la commune, ça s'est passé en 1971, du 18 mars au 18 mai, au 28 mai 1871, j'ai dit 1800.
T'as dit 1900, je crois.
Non, j'ai dit 1800. C'est pas grave.
En pleine guerre franco-prussienne, du coup.
En pleine guerre franco-prussienne qui venait de s'achever. Alors, je vais faire très court. Voilà, c'était les Prussiens dirigés par le chancelier Bismarck qui voulaient réunir la Prusse à l'Allemagne et qui a décidé d'annexer, qui voulait, hein, l'Alsace et la Lorraine, décidément. Et donc, Napoléon III décide de partir en guerre. Il se fait complètement latter à Sedan. Il dépose les armes. Et du coup, il est déchu et le gouvernement qui prend sa place, qui est aussi mis en place par Gambetta notamment,
il est déçu.
Va lancer la Troisième République. Voilà. Et en attendant qu'il y ait une élection, c'est Adolphe Thiers, donc, qui, c'est lui d'ailleurs qui deviendra le président ensuite, par la suite. Mais en attendant, il est chef du pouvoir exécutif, donc c'est lui qui va tout gérer. Et le peuple parisien n'est pas du tout content de cette décision. Thiers et Bismarck sont prêts à signer l'armistice où Bismarck va donc conserver l'Alsace et la Lorraine, et c'est dans ce contexte-là que le peuple parisien, et pas que, hein, parce qu'on a vu qu'il y a eu aussi d'autres, évidemment en France, d'autres soulèvements, va décider que non, on ne veut pas avoir perdu cette guerre.
Ils ont même plus le choix, hein, c'est ce qu'on voit dans le film aussi, ils sont dans une telle misère que...
Ils auraient pu, c'est vrai. Et du coup, oui, puis ils sortent, il y a une immense famine parisienne pendant l'hiver 70, et ils sortent de ça, la guerre a duré 4 mois, je crois.
Ils sortent d'une crise économique, je crois.
Ils sortent aussi, c'est la merde totale, donc le peuple a toutes les raisons de pas être content, et en plus de ça, ils se sentent humiliés. Et la cerise sur le gâteau, ce qui va vraiment déclencher cette commune, la création de cette commune le 18 mars, c'est que dans la nuit du 17 au 18 mars, comme Thiers a peur justement d'une révolte et d'émeute, il va faire en sorte, il va envoyer ses troupes pour récupérer toutes les armes qu'il y a dans la capitale. Donc il y a environ pas loin de 300 canons et 500 000 fusils. Et c'est là que le peuple va se soulever, va dire non, parce qu'en plus les canons c'était payé par le peuple. Donc ils estiment que non, ça nous appartient, il n'y a pas à le prendre.
C'est à la charge de la garde nationale qui allait proche du peuple.
Ouais, voilà.
Qui d'ailleurs va se mettre du côté du peuple. L'équivalent d'une gendarmerie en gros.
Ouais. C'est à peu près ça, ouais.
C'est un peu le même rôle, voilà, ils ont un rôle de proximité, on va dire.
Ouais, mais ils sont quand même beaucoup plus proches du peuple que du gouvernement, et du coup, justement, ce qui va se passer, c'est que la garde nationale va se mettre du côté du peuple, alors qu'ils auraient dû normalement...
C'est-à-dire que les membres de la garde nationale sont issus eux-mêmes du peuple. Justement, il y a pas les aristos quand ils veulent rentrer, ils vont à l'armée, ils vont pas à la garde nationale. Donc, ce qui fait que les soldats de la garde nationale sont issus du peuple.
Et la plupart sont partisans, quoi. Voilà, ils sont partisans. Et donc, c'est de là que ça va partir, et du coup, on en parlait hier, on n'avait pas clarifié au niveau des fortifications.
Ah oui, de Paris.
Ouais. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, Paris est assiégé, les Prusses sont tout autour. Paris est une ville fortifiée, et c'est justement Thiers qui avait mis en place ces fortifications dès les années 1840. C'était une idée de Louis-Philippe, 10 ans plus tôt, et c'est Thiers qui l'avait fait. Et du coup, les Parisiens vont se retrouver coincés intramuros, avec les Prussiens tout autour.
Bah, situation de siège, quoi.
Ouais, situation de siège, et merci de préciser. Non, mais ce qui est marrant, c'est que tout va se passer sous le regard des Prussiens, en fait. Toute la commune, les Prussiens vont être autour. Et donc, pendant 2 mois, la commune va s'organiser, la commune va... bref, je ne peux pas rentrer dans
sous le regard,
va voter leur propre loi.
Première grande expérience.
Thiers et toute son équipe et l'armée et une grande partie de la bourgeoisie va se barrer à Versailles. Enfin, il est déjà à Versailles au moment où la commune éclate. Et ce qui va se passer, c'est que pendant ces 2 mois, alors ça on le voit pas dans le film, mais la raison historique, enfin, comment la commune a fini aussi et pourquoi Thiers est aussi venu récupérer ses fameux canons et ses armes, c'était non seulement parce qu'il avait peur qu'il y ait une émeute, et que les révolutionnaires aient tout ça sous la main, mais qu'en plus il était en train de signer l'armistice avec Bismarck, donc avec la Prusse et l'Allemagne, puisque Guillaume Ier était venu à Versailles, et la condition pour signer l'armistice était évidemment que Paris soit désarmé. Et donc c'est pour ça qu'il a voulu récupérer ses canons, et que là le peuple a dit non, c'est nos canons, c'est non, on n'est pas d'accord avec ça. Et là, gros clash. Après, on peut pas.
Et évidemment, il pouvait difficilement avoir l'appui du peuple, donc il fallait trouver des astuces pour que ça passe. C'est-à-dire, il fallait, s'il avait demandé l'avis, s'il l'avait fait démocratiquement, certainement que les Parisiens auraient refusé et l'armistice n'aurait pas pu signer. En fait, il devait y avoir déjà une complication.
Oui, il y avait énormément de choses comme ça.
Une situation un peu difficile.
Pour la petite histoire, s'il a pu faire l'action de récupérer Paris, d'envoyer ses troupes, donc qu'on appelle les Versaillais, et que ça a été aussi facile parce que déjà face à la garde nationale qui était quand même assez sous-équipée, qui sont pas des professionnels ou des stratèges militaires, toute l'armée française de ce moment-là ça faisait pas le, ça, enfin la, les communards pouvaient pas faire le poids, et qu'en plus comme il voulait signer cet armistice avec Bismarck, il a négocié avec Bismarck, et Bismarck lui a renvoyé la plupart des prisonniers qu'ils avaient fait pendant la guerre, dirigés par Mac Mahon, Thiers s'est retrouvé à la tête d'une armée de 130 000 hommes avec tout le matos high-tech que des Prussiens leur avaient prêté. Enfin bref, c'était...
Et des drones et tout.
Voilà, c'est ça. Des missiles V2.
Et, tout. Et ça a été un massacre.
Il y a eu 30 000 morts.
À peu près.
Alors c'est dépend pas, des estimations.
Il y a des historiens qui descendent à 6 000, d'autres qui disent 20 000.
Ouais, c'est minimum 6 000 ou 7 000, et il y en a qui montent à 20 000, 30 000.
Même 40 000.
Il y a eu énormément de fusillés, d'exécutés, de morts par les bombardements. De leur côté, les communards ont mis Paris à feu et à sang. Ils ont brûlé la plupart. Ils ont cassé la tour Vendôme. Ça, c'était symbolique, parce qu'évidemment, ils ne voulaient plus de cet impérialisme et de cette monarchie et de tout ça. Et c'est ce qu'on craignait à l'époque, c'est que Thiers et les bourgeois veuillent réinstaurer une sorte de monarchie. Ils avaient peur de ça. Et du coup, ils ont tout cramé. Et puis, ils se sont fait.
La semaine sanglante.
Elle
porte très bien son nom.
Du 21 au 28 mars.
Ça a été un massacre absolu. Puis les gens étaient balancés dans des...
Il y a eu des charniers.
Enterrés vivants dans des charniers.
Fusillés par centaines. Une grande partie qui a été incarcérée. Voilà, enfin bref, donc voilà un épisode très marquant et ça a été un exemple pour beaucoup. Bah, ils ont fait une tentative d'autogestion en fait.
C'est ça la première très, grande ça, historique. La première,
très marquant et juste pour finir sur ce rappel, ouais, c'est mal connu justement parce que c'est pas enseigné en fait en histoire au collège et au lycée. Et apparemment, même en études supérieures, c'est quelque chose qu'on voit presque pas. Enfin, il y a quelqu'un dans le film qui en parle.
C'est évoqué, ouais, oui, qui a fait des études d'histoire. Bah, on en entend parler, mais c'est pas une histoire.
On en entend vite fait parler, mais on l'étudie pas quoi. Alors,
voilà, la Révolution française, on nous parle bien.
Ouais, ça, on la connaît bien.
Le roi Robespierre, machin. Alors, c'est vrai que la commune.
La révolution des bourgeois, mais la grande insurrection prolétaire de l'histoire mondiale. Hein, c'est la première grande. De l'histoire moderne, en tout cas, de l'histoire de.
Celle de 1789 ?
Non,
celle-là. Oui, celle-là.
La première grande insurrection populaire.
Populaire, bien
sûr.
Et d'ailleurs, c'est
les ouvriers qui se lèvent et qui décident de prendre en charge la gestion de la Commune de Paris. Et donc,
de voter leur loi, d'avoir.
C'est extrêmement innovant, idéologiquement innovant.
C'est ça, au niveau des réformes, c'est incroyable. C'est extrêmement porté sur l'éducation, sur.
Les femmes, les droits des femmes.
Droits des femmes, les femmes qui ont commencé. Le film insiste énormément sur ce qui a été fait.
Très bien représenté sur l'émancipation des femmes.
Ouais. Voilà, les femmes sont très importantes.
Les femmes se réunissent, créent donc l'union des femmes, des clubs, discutent, se battent pour leurs droits.
On parle déjà de séparation entre l'Église et l'État.
Ah, bien sûr, qui est déjà très importante. C'est vraiment au cœur du débat aussi de transformer les écoles. Je parlais de l'éducation, mais transformer les écoles religieuses
créer en des écoles laïques.
En termes de réforme sociale, ce qui a été fait, et en l'espace d'à peine 2 mois et demi, ce qui a été mis en place est absolument incroyable. Ou en tout cas, ce qui a voulu aussi être mis en place, parce que tout n'a pas pu être mis en place, effectivement.
Ouais. C'est une révolution philosophique, enfin sociétale, c'est-à-dire qu'il y avait plus que renverser certains trucs, enfin, et avoir des idées, c'était chercher l'émancipation, chercher une liberté, mieux s'organiser dans le travail pour se libérer du temps, et avoir le temps de réapprendre, de pouvoir, voilà, que les femmes ne soient pas juste des lessiveuses, etc., mais qu'elles aient le temps d'apprendre. Et de s'instruire, de s'élever intellectuellement, enfin socialement. Donc il y a vraiment une énergie dingue et des envies assez dingues.
Dans le film, on parle de ça, on parle de l'éducation, mais dans le film, ils mettent en scène une école de filles qu'on revoit régulièrement à travers le film. Donc pendant les 4 premières heures de film, quand on est sur l'école, c'est des bonnes sœurs qui font la classe. On voit les gamines
en train de apprendre à faire la broderie,
voilà, des choses comme ça.
Elles posent des questions et la mère supérieure qui leur dit tais-toi et travaille. En
c'est
gros,
ça. Pourquoi il y a du bruit dehors.
On en parlera plus tard.
Ça ne concerne
c'est
pas.
La phrase tout
voilà. Et sur les 2 dernières heures de film, on a le basculement qui a eu lieu, c'est-à-dire c'est devenu une école laïque. C'est des femmes qu'on a vues se battre plutôt
pour ce projet-là,
pour leurs droits, pour etc., qui se retrouvent à faire la classe et commencent à expliquer, etc. Et du coup, les gamines qui sont dans la salle de classe, on parlait du dispositif et des participants, etc., les gamines qui sont dans la salle de classe ont vraiment vécu ces deux formes d'école différentes. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, elles étaient dans l'école à suivre, elles ont vraiment fait des cours de broderie, de machin, et justement
apprendre à faire les tâches ménagères,
quand la caméra revient plus tard et qu'on est dans l'école laïque, on leur demande le caméraman, le journaliste lui leur demande mais alors qu'est-ce qui a changé entre avant et après. Donc c'est totalement improvisé, hein, c'est vraiment de l'interview. À la fois les gamines jouent le jeu, elles sont dans le jeu de rôle aussi, et elles expliquent avant on nous expliquait rien, on nous faisait faire on nous apprenait à devenir de bonnes femmes au foyer, etc. Et maintenant, on s'intéresse à ce qu'on pense, on nous permet, on répond à nos questions, etc. Donc voilà, ça faisait aussi partie cette expérience gigantesque que le film a mis en place.
C'est pas un hasard s'ils ont pris une école de filles, justement. Ils auraient pu prendre une école.
Ils l'ont fait réellement aussi. Cette expérience aussi.
Oui, puis on sait que les enfants se prêtent beaucoup plus au jeu. Enfin, ouais. On voit que les adultes déjà sont à fond dedans et y croient totalement. Alors, on imagine que les gamines, les enfants, ils croyaient totalement.
Pourtant, aussi bien dans la commune et tel se montrer dans le film, c'était cette émancipation des femmes qui veulent aller au front aussi, qui veulent aller se battre, qui veulent prendre le fusil à la main.
Et même les enfants, du coup, à la fin, elles veulent aller aux barricades.
On les voit sur les barricades avec les fusils.
Elles veulent vraiment devenir l'égale de l'homme, pouvoir combattre de ses côtés, pas juste rester bobonne qui fait le linge, qui attend que son mari revienne ou pas.
Et combattre pour bonnes raisons, combattre pour cette liberté, pour cette émancipation de.
Pour leur droit.
Mais pas seulement des femmes, c'est l'émancipation. Il est question de ça, c'est une émancipation du du prolétariat dans son ensemble.
En plus, on voit que les femmes veulent acquérir, veulent être légales en droit, mais c'est pas pour écraser les hommes. Elles insistent bien là-dessus. Elles veulent faire société avec les hommes au même niveau. Il y a vraiment cette volonté-là qui est vachement en scène, je trouve. Qui était vachement bien. Je faisais juste le rappel sur le fait qu'on ça soit pas enseigné parce que justement tu parlais de la Révolution française et à chaque élection on nous fait chier, on nous dit oui, rappelle-toi qu'il y a des gens qui sont morts pour ton droit de vote quand si comme moi vous êtes du genre à pas voter on doit vous le faire et j'aimerais bien qu'on rappelle de temps en temps ce que les communards ils se sont battus pour quel droit aussi, ça on le rappelle jamais et je pense que ça vaut le coup aussi.
Et est-ce qu'on parle d'eux? À part certains
Non, pas tellement.
Les droits.
Du coup, les droits, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on faisait après comme sujet?
Moi, j'aimerais dire...
Ils se sont battus pour nos droits, d'accord, c'est ça que tu veux dire.
C'était ça, c'était pour faire le parallèle avec la Révolution française, l'importance.
Une réflexion aussi que j'avais eue hier soir à propos de ça, c'est que justement, ces gens, pendant deux mois et demi qu'a duré la Commune, ont développé un savoir-faire absolument incroyable au niveau de l'autogestion, au niveau de l'apprentissage, de la réflexion, de l'émancipation. Ils ont acquis une expérience, justement, de gestion. Comme je me suis fait la réflexion hier, a été complètement perdu. C'est-à-dire que ça,
j'ai cherché un peu là-dessus. C'est pas si complètement perdu. Il y a quand même une sorte de diffusion.
N'empêche que sur les 20 000 morts ou 30 000 morts ou 40 000 morts selon les chiffres qu'il y a eu, c'est ces gens-là qui s'étaient impliqués, qui ont expérimenté, qui ont testé justement l'autogestion dans Paris, et c'est ces gens-là qui sont morts et c'est ce savoir-faire personnel qui n'a pu être transmis sur le coup.
Alors effectivement,
aussi souvent de parler, c'est cité dans le film, c'est le rôle des Algériens. Il y avait aussi des Polonais. Il y avait plein de nationalités à Paris à ce moment-là. Des diplomates, des machins, des voyageurs, des gens qui ont participé pleinement à la Commune, quoi. Et notamment le rôle des immigrés algériens. Qui nous explique même pendant le film, et là pour le coup dans le film ils ont fait participer des sans-papiers, c'était des sans-papiers de Paris qui sont venus travailler, qui sont venus faire cette expérience de 3 semaines dans les studios avec Peter Watkins, et les sans-papiers reviennent sur les luttes qu'il y a au même moment en 1871 en parallèle de la Commune, les luttes qui ont lieu en Algérie au même moment où l'armée française est déjà installée depuis quelques dizaines d'années, a commencé déjà à coloniser l'Algérie, à s'approprier les ressources, et donc ces immigrés algériens en profitent pour dans le cadre de la Commune, pendant la Commune, pour faire valoir aussi, pour défendre leur lutte aussi à eux.
Alors du coup, pour parler de cet héritage et notamment par rapport à l'autogestion, j'ai fait un peu de recherche, on se posait la question si c'était oui ou non les premières coopératives. Alors d'après ce que j'ai lu, oui, c'était les premières, peut-être même dans le monde. En fait, il faut savoir que avant, c'est vers 1866, je crois, en tout cas dans les années 1860, l'État français a donné un droit de grève aux ouvriers qui étaient demandés déjà, je crois qu'il y avait une demande pendant la première révolte de 1848. Ils ont eu ce droit de grève et ça, c'est notamment un des trucs qui a dû permettre aux ouvriers de lancer ça. Il y avait aussi avant cette date, il y avait aucun droit de réunion. C'est-à-dire qu'il y avait rien, il y avait aucun intermédiaire entre le citoyen et l'État. C'était le citoyen était tout seul, quoi, ou le travailleur était tout seul face à l'État. Et là, ils avaient enfin le droit de faire des débuts d'association. Enfin, l'association, c'est plus tard, mais voilà, il y avait possibilité de réunion. Et c'est ce qui a permis, avec la situation qui fait qu'il y avait une envie et aussi de s'en sortir, de faire de l'autogestion, de faire des coopératives. Et ce modèle des coopératives, donc en France, bien plus tard, ça a donné les SCOP. Aujourd'hui, il y en a, j'ai pas noté le nombre, mais il y en a un très grand nombre et ça emploie beaucoup de gens. Et c'est des modèles qui fonctionnent. En fait, faut surtout savoir, voilà, tu disais le savoir a été perdu. Effectivement, le savoir des individus et des groupes
personnels,
n'a pas pu être transmis ou en tout cas en grande partie. Par contre, la Commune en soi, enfin l'événement de la Commune,
ça a quand même inspiré beaucoup. Voilà, aussi des événements pendant la Révolution
des échos
en Espagne, enfin dans plein d'autres pays.
En Espagne, la Révolution russe s'est énormément inspirée. Je crois qu'elle a été souvent citée. Tu as aussi la Yougoslavie. Je crois qu'il avait inscrit dans sa constituante. En tout cas, ça a été institutionnalisé. On peut se demander d'ailleurs s'ils sont pas un peu fait latter la gueule pour ça plus tard. Enfin, je connais mal l'histoire, donc ça serait un peu. On va dire que c'est théorie fumeuse de Nagoya, quoi.
Faudra un jingle pour ça.
On pourra mettre un jingle. Mais il y a quand même eu une diffusion qui s'est faite, et puis je pense que. Effectivement, peut-être que les savoirs, l'apprentissage qu'il y a eu, puisque en deux mois ils ont dû apprendre énormément de choses. Effectivement, il y a dû avoir des choses de perdues, mais ce qui a perduré, je pense, c'est en tout cas c'est l'envie et peut-être la perspective de pouvoir s'auto-organiser. C'est-à-dire, je pense que c'est un truc qui fait rêver les travailleurs depuis des siècles, mais là, peut-être qu'on a commencé à se dire effectivement c'est possible. Et on voit que depuis cette date. En France, mais sûrement aussi ailleurs, on revient souvent à ça, et même dans les manifs qui se passent en ce moment, là, les gens commencent à reparler un peu de communes. Depuis quelques années, il y a de plus en plus de tu me parlais de bars à Lyon, mais aussi de boutiques, de plusieurs
des épiceries
où on a les jardins potagers aussi à Bruxelles, t'en as vachement un truc partagé. Enfin voilà, il y a plusieurs modèles d'économie partagée, solidaire, participative, etc. Et c'est vrai que la commune a été un déclencheur, quoi.
Est-ce que vous pensez que c'est un sujet qui dérange un peu? Ouais, on parlait de médias, on parlait de comment les médias sont présentés dans le film et tout. Quand on y pense, pour un événement qui est aussi important, bon, déjà le fait qu'à l'école, dans l'enseignement, on n'en parle pas tant que ça et tout, et que ça c'est vraiment un sujet en or pour un réalisateur, un cinéaste, à traiter, et pourtant il y a quasiment pas. Enfin, Watkins l'a fait du coup. Il en a fait toute une expérience.
Il a eu beaucoup de mal, faut le rappeler.
Il a eu beaucoup de mal, ouais, justement, on n'a pas.
Et c'était pas le premier à vouloir faire un film sur la commune. Ils ont tous eu des bâtons dans les roues. Watkins aussi, on a eu, et je pense qu'il aurait pu ne pas le faire à cause de cette difficulté.
Bah, d'ailleurs, c'était
au niveau financement, mais même au niveau diffusion. La diffusion, c'est les gens qui sont investis dans ce film qui derrière ont monté une association, ouais. Je crois, pour pouvoir diffuser le film. Mais il est. Pourtant, il n'est pas massivement
diffusé. Ceux qui se sont investis, tu veux dire, ceux qui ont participé.
Ouais, ouais, les comédiens.
Pas pécuniairement.
Le film a été diffusé une fois sur Arte, donc en 2000, donc tourné en 1999. Le film est sorti en 2000, diffusé sur Arte de 23h à 4h du matin. C'est-à-dire un moment où le spectateur n'est pas, voilà, soit, et puis
faut vraiment être fan de la commune pour se dire, tiens, je vais regarder un film en noir et blanc de 5h.
Tu ne pouvais même pas l'enregistrer.
Il n'avait pas passé en deux parties,
Non, mais un programme de 6h, tu mets pas une VHS à l'époque, oui. je me remets dans le contexte de en 2000.
Ouais, tu l'as deux, quoi.
Mais tu sais, ouais, tu sais que tu vas perdre le milieu du film. Ouais.
Tu te relèves au milieu de la nuit, quoi, pour remettre une.
Ah oui, tu pouvais pas le programmer, ouais.
Il faut que tu sois là, quoi.
Les VHS, c'est 4 heures. Donc 4 heures, une VHS de 4 heures, tu mets pas le film en entier.
Ouais, ouais.
Donc il faut être là si tu veux l'enregistrer à l'époque. Et ensuite, il a été ressorti, il est sorti au cinéma en 2007, dans une version remontée de 3h30. Donc avec des coupes, etc. Mais, sorti au ciné dans une salle à Paris et puis bon dans quelques événements, quelques festivals par la suite, mais
juste petite précision pour celui qui voudrait le choper, bien sûr vous pouvez le télécharger et tout. Moi je l'ai tout simplement regardé sur YouTube.
Oui,
vous l'avez sur YouTube en deux parties, une première partie de 2h45 et 2h44 et une deuxième partie de 3h.
Dans le blog on vous mettra les liens. Je mettrai les liens sur le blog de partie 1, partie 2, comme ça vous pourrez vous nous écoutez depuis le blog. Enfin, là en direct, non, mais plus tard, oui. Si vous nous écoutez depuis le blog, vous avez en dessous, là, vous avez le lien pour mater les deux parties.
Ouais.
Voilà. Et monsieur Nagoya.
On parlait de médias, justement. Je veux revenir sur, tu as déjà ouvert un peu ce truc. Donc, on a, dans le film, on montre très bien, et c'est un sujet qui est cher à Watkins, la question des médias, de la monoforme, justement, comment elle formate l'opinion. Il a écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle Média Crisis, d'ailleurs. Et donc, il a choisi cet anachronisme dans le film pour traiter ça. Donc, on a à la base la télé versaillaise qui est très ressemblante à la télé nationale qu'on a aujourd'hui. Quand on a le débat sur les événements, moi, ça me fait penser. Et le gars qui est en train de dire non, mais c'est n'importe quoi, c'est des énervés. Et puis, pour ce qui est prévu, alors qu'ils vont les massacrer, il dit non, enfin, il utilise des mots, il y a une espèce de dévoiement du langage. On est dans une forme de novlangue, histoire que ça passe, quoi, de faire passer à la pilule. Et donc, en réponse à ça, faut bien rappeler que c'est une télé à sens unique, c'est-à-dire que c'est les reporters de la télé qui font les images et on balance ces images-là. Il n'y a pas de retour possible. Les gens, d'ailleurs, quand ils font des retours sur le présent, en parlent. Et c'est pour ça que les communards, les deux journalistes communards, créent cette télé qui, du coup, n'est plus à sens unique. C'est-à-dire, ils vont interviewer, ils vont donner la parole aux citoyens. Eux vont faire des commentaires, mais voilà, on n'est plus dans un sens unique. Ils vont essayer de faire quelque chose de plus complexe,
et la caméra
de plus riche.
Va se promener, assister aux débats, voilà, entre citoyens, etc.
Et ouais, moi les débats, je trouvais que ça ressemble les débats que tu as à la télé versaillaise. Moi, ça me faisait penser. Donc le mec qui raconte ses raisons, ça me faisait penser aux débats avec les experts économiques qui nous disent que l'austérité est nécessaire et tout.
Ce qui est marrant,
on
c'est
exactement
que,
dans le ça, même type de discours tout pourri, quoi.
Et autant, donc, il montre ces médias-là, mais en même temps, le film entier est une expérience contre, justement, cette monoforme des médias, puisque le film entier, déjà en adoptant un format improbable de 5h45, ah, oui. En adoptant, voilà, c'est ce qu'on disait, on en parlait déjà un petit peu, les panneaux, les écrans noirs, les coupures son, les longs plans de 10 minutes, voilà, tout un tas d'expérimentations visuelles, de mise en scène, font que dans la forme, justement, il essaye de proposer, Watkins, à travers ce film, une alternative à cette monoforme. Donc voilà, on a un film de 5h45 qui propose en permanence de nouveaux moyens de communication, d'expression de l'audiovisuel pour faire passer des idées, etc. Et en même temps, à l'intérieur, il nous présente ce que c'est que les médias, il nous montre à travers la télé nationale ce que sont les médias actuels.
Et ça va même au-delà de ça. Parce que
ce qui est intéressant, c'est qu'on a la commune qui est fermée, qui a ce côté intramuros, justement, et que les joueurs de Nice Communard sont à l'intérieur, interviewent les gens. Pour que ce soit diffusé, ça on le voit pas dans le film, mais pour que ce soit diffusé à tout le monde, quoi. Pour que les gens de l'extérieur comprennent ce qui se passe à l'intérieur. Alors, et ils essayent, et justement, il y a une scène où à un moment donné, les femmes s'énervent, enfin, pas que les femmes, mais, si, non, c'est les femmes, oui, qui s'énervent contre les deux journalistes et qui disent, qu'est-ce qui nous dit que vous allez pas trafiquer, là, tout ce que vous enregistrez?
Ouais,
vous
c'est
pas...
celle qui m'agace, là. Ouais,
et les journalistes répondent, mais voilà, vous pouvez regarder à la télé, vous allez voir les images, vous allez voir ce que vous venez de dire, vous allez le... Alors que la télé versaillaise, déjà ne se donne même pas la peine, il faut en venir un expert qui parle et qui ne parle jamais vraiment de ce qui se passe à l'intérieur, quoi. Donc il y a vraiment deux visions différentes.
Et puis qui n'est pas issu de ce peuple-là, justement, c'est quelqu'un vraiment d'extérieur.
Et quoi. À la fois, ça illustre la réalité historique, c'est-à-dire que la Commune de Paris, voilà, ils étaient en état de siège, donc complètement isolés. Donc même les médias qu'ils ont créés, les journaux communaux qu'ils ont créés, qu'ils ont pu gérer eux-mêmes pendant cette expérience de la
T'avais
Commune.
T'avais le père Duchesne qui existait déjà, mais qui a été important. Ouais.
Voilà. Donc tout ça, c'est des médias, qui ne sont pas sortis de Paris ou très difficilement. Et à côté de ça, effectivement, la télé versaillaise représente les grands journaux de l'époque qui, eux, pour le coup, ont servi à informer le reste du pays, mais à informer aussi à l'international. C'est pour ça que la Commune est a été très mal vue, parce que c'était le point de vue des Versailles, c'était le point de vue de Thiers, c'était le gouvernement Thiers, qui a servi à informer le monde entier. C'est-à-dire que voilà, c'est pour ça qu'on a des commentaires aussi.
Personne n'a soutenu la Commune ou le
dans la presse américaine ou autre en 1800, enfin au même moment, hein, parce que tout le monde s'y est intéressé. Ça a été un événement.
J'ai presque l'impression qu'il a fallu attendre peut-être une vingtaine, une trentaine d'années pour que personnes retentent ça, parce qu'elles ont. Il a fallu ce temps-là pour qu'elles prennent conscience.
Parce que les médias n'ont eu que le point de vue du gouvernement Thiers, jamais le point de vue de l'intérieur puisque voilà, ça restait enfermé à l'intérieur de la Commune de Paris.
Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des milliers de communards qui ont été incarcérés, qui ont été envoyés. Quand ils ont été envoyés dans des prisons, ils n'ont pas tous été exécutés.
Au bagne, tout simplement.
Au bagne, ouais, mais au bagne en Nouvelle-Calédonie, à Cayenne, enfin bien loin de la France, ils ont été
amis. Île de Léron, Île de Ré aussi, il y avait des prisons.
Ça reste pas, mais ils ont envoyé un paquet, et qu'il y a eu une amnistie en 1700. Et qu'il y a eu une amnistie en 1880 où tous les communards ont été libérés. Et à mon avis, à partir de ce moment-là,
les Algériens,
ils ont pu raconter.
Ils
ont, c'est vrai en plus.
Du coup, je
reviens, c'est que c'est vrai. Et donc, du coup, ils ont pu témoigner de ce qu'ils ont vécu et vu l'extérieur. Et de l'intérieur, et c'est peut-être à partir de ce moment-là qu'ils ont pu communiquer ce qui s'est passé. Alors que jusqu'à ce moment-là, ils étaient dans les bagnes, ils étaient, voilà, peut-être que jusqu'en 1880, personne n'a vraiment su.
Il y a quand même dû avoir des...
Ouais, bien sûr.
Enfin, même les historiens, les historiens qui travaillent sur cette période historique travaillent forcément à partir des journaux communaux qui ont dû être. Il doit y avoir voilà tout un tas de journaux communaux. Justement, tu parlais du père Duchesne. Ça, c'est des journaux qu'on a gardés. Hein, quand on peut citer ces journaux, c'est qu'on a gardé des exemplaires ont été conservés dans des archives, dans des bibliothèques, des choses comme ça.
C'est ce qui a dû permettre.
En parlant d'historiens, je voudrais juste parler d'Henri Guillemin. Que vous pourrez retrouver sur YouTube aussi, Henri Guillemin, donc historien de gauche, qui est des années, qui a été un peu connu dans les années 50-60 et qui a fait notamment qui avait un format.
Ne fais pas sa bio.
Il avait un format télévisé dans
les direct au point.
Il avait un format télévisé dans les années 60 et dans le cadre de ce format télévisé, une espèce de précurseur d'ailleurs des podcasts de vulgarisation qu'on retrouve sur le net, dispositif très simple, Henri Guillemin qui parle cadré en portrait face caméra et il existe un cours. Concrètement, c'est un genre de cours historique sur la Commune de Paris qui dure 6h30 au total, soit par petite partie de 30 minutes, soit la grosse de 6h30. Voilà, la Commune de Paris vue par Henri Guillemin.
Que vous pourrez trouver sur YouTube aussi. Ouais.
Tu balanceras un lien ou deux du coup.
Je mettrai aussi, voilà, fantastique historien, très bon orateur, c'est très agréable à écouter, à suivre. Et lui fait une analyse très 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 pointue en détail de voilà de comment la Commune s'est construite, comment elle s'est déconstruite.
Du coup, je prends la conversation et je reviens à la première question que tu as puisque t'as.
Mais il nous reste 30 secondes là.
T'as demandé. Ouais, mais j'en ai pas là, si. Si, on a le temps,
si,
on a
le
temps,
si, pas.
Ah merde. Tant pis.
Je vais conclure. Très vite.
Non, mais je vais conclure. En tout cas, oui. C'est un film qui faut voir puisque il donne pas mal de clés. C'est un film poignant et très inspirant. Voilà, ça montre que des choses sont possibles, que de l'autogestion c'est possible.
Il est très digeste, malgré sa longueur, il est super digeste. Voilà. Il se regarde très bien.
Et de l'autogestion c'est possible, mais il y a des erreurs à éviter et ça permet déjà de se rendre compte de certains trucs. On n'a pas parlé des raisons de